VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Nouakchott, 18h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal présidentiel au Gabon. 11 candidats sont en liste pour le scrutin du samedi 27 août. Dont deux grands favoris, le président sortant Ali Bongo Ondimba et Jean Ping, ancien président de la Commission de l'Union africaine. Une élection sous haute tension après une campagne marquée surtout par des invectives, accusations et contre-accusations où chacun se dit convaincu de remporter la victoire. Est-ce que tout est fin prêt pour la tenue du scrutin? Au micro de notre envoyé spécial Idriss Fall à Libreville, la réponse de René Abougila, président de la CENAP, la Commission électorale nationale.
Tout est pratiquement prêt. Il y a des petits réglages pour corriger les petites insuffisances, mais l'essentiel est déjà prêt pour que le scrutin se tienne convenablement samedi prochain.
Les bureaux de vote vont ouvrir à quelle heure et fermer à quelle heure?
Bon, la loi prévoit que le bureau ouvre à 7h et ferme à 18h. Bon, on peut toujours en pratique enregistrer quelques retards, mais nous pensons que nous devrions avoir tous les bureaux ouverts au plus tard à 8h.
Et les opérations de dépouillement des bulletins alors?
Les dépouillements se font immédiatement après la fermeture des bureaux, au niveau des bureaux de vote. Et ensuite, les résultats sont acheminés au niveau des commissions électorales de centralisation. Ça prend un peu plus de temps puisqu'il faut pouvoir centraliser l'ensemble des bureaux d'une circonscription. Ce qui fait que nous n'espérons pas avoir des résultats significatifs avant 48 heures.
Mais ce n'est pas la CENAP qui proclame, c'est le ministère de l'Intérieur.
Les résultats établis, constatés et validés par la commission électorale. Donc, le ministre annonce les résultats, mais confectionnés par la commission électorale.
Vous pensez que ça va se passer quand même dans le calme?
C'est ce que nous souhaitons et nous n'avons aucune raison de croire qu'il y aurait des troubles, en particulier en dépit du fait que la compétition est très âpre.
René Abougila, président de la CENAP, la Commission électorale nationale au Gabon. En Centrafrique, 9e réunion à Bangui du groupe international de contact sur la RCA, une rencontre placée sous le signe de la solidarité et du soutien de la communauté internationale au gouvernement et au peuple centrafricain, dont les travaux ont été lancés ce jeudi par le président Faustin Archange Touadéra en personne. Au programme notamment l'examen de la situation politique et sécuritaire du pays, ainsi que les progrès dans les processus de DDR, désarmement, démobilisation, réinsertion et réconciliation. Écoutons le président centrafricain Faustin Archange Touadéra à l'ouverture des travaux.
Les appuis multiformes apportés ont permis le retour à la paix et à la légalité constitutionnelle. La République centrafricaine a toujours besoin du soutien et de la solidarité de la communauté internationale. La situation demeure fragile et précaire. Celle-ci nécessite un accompagnement soutenu de la communauté internationale. La RCA est sur la bonne voie. C'est pourquoi je voudrais vous exhorter à consolider cette chaîne de solidarité pour non seulement pérenniser les acquis, mais aussi conduire le pays vers un avenir serein et prospère à travers un cadre plus adapté à l'évolution de la situation.
Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Les travaux de la réunion sont censés se terminer ce soir. RCA toujours, la lutte contre l'épidémie de choléra se poursuit. La maladie dont les premiers cas ont été signalés début août a déjà fait 19 décès pour 169 cas recensés. Pour stopper la progression du choléra, des ONG nationales et internationales se mobilisent et plusieurs points de riposte et de réhydratation sont installés sur le long du fleuve Oubangui, à la frontière entre la RDC et la RCA. Le choléra sévit également en RDC et les Nations Unies ont exprimé à Kinshasa leur préoccupation face à l'extension dans le pays de l'épidémie qui a déjà touché 15 000 personnes et fait plus de 380 morts depuis le début de l'année. Les précisions de Nani Talani.
La situation est très préoccupante. Le choléra est en train de se propager en RDC, où on a déjà franchi la barre de 15 000 cas et 382 décès depuis le 1er janvier, a déclaré Eugène Kabombi, chargé de communication de l'Organisation mondiale de la santé en RDC. D'après Florence Marshall, une porte-parole onusienne, cette épidémie poursuit son extension non seulement le long du fleuve Congo, mais aussi dans la province du Nord Oubangui, dans le nord-ouest de la RDC, à la frontière avec la République centrafricaine et le long de la rivière Oubangui. Pour Yves Wilmot, un porte-parole de l'UNICEF, il faut un travail de conscientisation des populations de la partie ouest du pays qui ne sont pas habituées à la problématique du choléra. Selon l'OMS, une réunion transfrontalière entre les autorités sanitaires de la RDC et celles de la République centrafricaine sera organisée dans les jours à venir afin de définir les stratégies communes de lutte contre cette épidémie.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Conflit en Libye, le Premier ministre libyen Fayez al-Sarraj a réclamé une aide militaire renforcée de la part des États-Unis qui bombarde déjà Sirte pour appuyer les forces libyennes contre le groupe État islamique. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le commandement militaire américain pour l'Afrique, l'AFRICOM. En visite mercredi au quartier général de l'AFRICOM à Stuttgart, dans le sud-ouest de l'Allemagne, M. al-Sarraj a exprimé le souhait du gouvernement libyen d'Union nationale GNA de voir les États-Unis contribuer au renforcement des capacités militaires libyennes, notamment par le biais de la formation de militaires et du partage d'informations, a souligné l'AFRICOM. L'émissaire américain en Libye, Jonathan Weiner, et le commandant des forces américaines en Afrique, le général Thomas Waldhauser, ont de leur côté réitéré leur soutien aux efforts du GNA pour chasser les djihadistes de l'EI de Sirte, avec l'appui depuis le 1er août des frappes aériennes américaines, a ajouté le commandement militaire américain pour l'Afrique. Aidés par les bombardements aériens américains, les forces du GNA ont enregistré d'importants succès à Sirte et acculé les djihadistes dans un quartier résidentiel en bord de mer. Afghanistan maintenant, au moins 16 personnes tuées lors d'une attaque contre l'université américaine d'Afghanistan à Kaboul qui a duré plus de 10 heures dans la nuit de mercredi à jeudi, pendant lesquelles les étudiants ont lancé de poignants appels à l'aide. Tous les détails avec John Lyndon.
L'attaque contre cet établissement d'élite qui accueille 1700 étudiants n'a pas été revendiquée pour l'heure. Deux de ses professeurs, un Australien et un Américain, avaient déjà été enlevés en début du mois, sans que leur rap ne soit revendiqué non plus. Le nombre d'assaillants n'est pas clair, mais la police de Kaboul a indiqué avoir tué deux d'entre eux lors de leur opération de sécurisation du campus à l'aube. L'armée afghane, assistée par des conseillers militaires de la coalition internationale, dirigée par les Américains, a rapidement encerclé le campus. Des centaines d'étudiants ont été évacués pendant la nuit. L'augmentation du nombre d'étudiants et surtout d'étudiantes allant à l'université est saluée comme une réussite depuis la chute en 2001 du régime taliban qui avait interdit l'éducation des femmes. Cette attaque, la première de cette ampleur contre une université d'envergure en Afghanistan et en plein Kaboul, intervient alors que les rebelles talibans sont à l'offensive dans tout le pays contre le gouvernement soutenu par les Occidentaux.
Le tremblement de terre en Italie. L'Italie s'interroge sur les raisons d'un bilan d'au moins 241 morts au lendemain du séisme meurtrier qui a réduit à l'état de ruine plusieurs villages dans le centre du pays. La protection civile a ramené à 241 contre 247 précédemment le bilan des morts, tout en prévenant qu'il pourrait encore s'aggraver, Tatiana Musso.
La population de ces villages pittoresques et touristiques triple ou quadruple l'été, rendant difficile l'évaluation du nombre de personnes présentes sur les lieux au moment du drame. La responsable du département des situations d'urgence de la protection civile italienne a indiqué qu'il y avait désormais quelque 270 blessés hospitalisés. En revanche, toujours pas d'indication sur le nombre de disparus. Des chiffres allant de moins de 50 à plusieurs centaines ont circulé et il restait difficile jeudi d'avoir une évaluation précise. L'hôtel Roma, complètement détruit à Amatrice, l'un des villages les plus touchés, a fait craindre le pire. Le propriétaire de cet hôtel a assuré aux secouristes que nombre de ses clients, un peu plus d'une trentaine, étaient parvenus à se mettre à l'abri au début du tremblement de terre. Reste l'exemple incompréhensible pour certains, scandaleux pour les autres, de l'école d'Amatrice rénovée en 2012 pour l'adapter aux normes antisismiques et réduite à l'état de décombre. Une enquête a d'ailleurs été ouverte par le procureur de Rieti pour évaluer d'éventuelles malversations à Amatrice et dans les villages concernés.
Et pour terminer, en visite en Arabie Saoudite, le secrétaire d'État américain John Kerry a affirmé ce jour-là que la guerre devait s'arrêter au Yémen. Le chef de la diplomatie américaine a annoncé une nouvelle initiative de paix approuvée par les pays du Golfe, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.